Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Faisons un rêve est une pièce de Sacha Guitry, écrite en 1916. Faisons un rêve, eh bien prenons le titre au sérieux et rêvons. Souvenez-vous de votre dernier rendez-vous galant, votre premier peut-être. Vous étiez seul à la maison en train d'attendre l'être aimé, homme ou femme, mais disons femme pour être raccord avec l'époque, puisque vous êtes un homme à femme qui attend sa maîtresse et qui ne peut penser à rien d'autre. Après de longues heures de séduction, de discussion, de persuasion, vous l'avez convaincu de vous rejoindre à votre domicile ce soir même, à 9h précises. Que se passe-t-il dans votre tête au moment où l'aiguille approche de seconde en seconde de l'heure tant attendue? À peu près ceci.
Oh, 9h moins 5, elle part de chez elle. Si, comme elle me l'a promis tantôt, elle part vraiment à 9h moins 5 de chez elle, elle sera ici dans pas tout à fait 6 minutes. Elle descend. Oh, ce que j'ai bien fait de parler aujourd'hui, moi. Oh, c'était le jour, c'était l'heure, madame, n'est-ce pas? On sent ces choses-là. Elle sort de chez elle, regarde à droite, regarde à gauche, elle traverse le trottoir, elle appelle un taxi. Psst, taxi, taxi. 25 avenue de Messine. Avec grand plaisir, madame. Tiens, encore un russe. Bon, elle part. Oh, je la vois. Je la vois dans le fond du taxi, comme ça. Elle tremble tellement, elle a peur. Elle tourne le coin de l'avenue de l'Alma. Elle traverse les Champs-Élysées. Premier refuge. Second refuge. Elle prend la rue Washington. La rue Washington, il faut compter à peu près 2 minutes. Oui, j'ai le temps d'éteindre là et d'allumer la petite lampe qui est là-bas. Là. Ah, c'est mieux, voyons, c'est beaucoup mieux comme ça, mais naturellement. C'est pas la lumière, ou plutôt l'obscurité, joue un grand rôle dans l'amour. C'est pas une pensée, c'est une réflexion. Bonjour Christophe Barbier.
Ah, ce qu'elle peut être longue cette rue Washington, pour ce qu'elle est jolie, enfin, bonjour.
Sacha Guitry, devrais-je dire. Sortez de ce corps. Vous êtes bien Christophe Barbier, me semble-t-il, et vous êtes le bienvenu sur le chemin de la philosophie. Sacha Guitry est né en 1885 à Saint-Pétersbourg. Il écrit des pièces de théâtre très jeune et devient rapidement très connu par le public de son temps, dont il est vraiment l'enfant. Il connaît les vaudevilles, le théâtre de Jarry Parker s'en inspire, l'adapte à son époque. Plus tard, en fera des films, et pourtant... ce qu'il écrit, ce qu'il décrit dans ses pièces, fonctionne à la perfection pour nous autres spectateurs du 21e siècle. C'était il y a 100 ans, Christophe Barbier, ce qu'on vient d'entendre.
C'était il y a 100 ans, mais c'est moderne pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parfaitement inscrit dans son époque. On a entendu le début de la description d'un itinéraire, vous pouvez le refaire aujourd'hui dans Paris. La rue Washington existe toujours, elle démarre aux Champs-Élysées, elle dure bien 2 minutes quand il n'y a pas trop de circulation. Et quand il décrit l'avenue de Messine un peu plus loin, c'est-à-dire l'endroit où le vrai Sacha Guitry habitait et dont il avait fait le domicile de son personnage, elle monte toujours l'avenue de Messine, comme dans la pièce. La seule différence, c'est que dans la pièce, on entend « tourne, tourne autour de la statue de Shakespeare » ou du moins ce qu'il en reste. Parce qu'en 1916, quand il écrit la pièce, la statue de Shakespeare avait été démontée et fondue parce qu'il s'agissait d'envoyer du métal pour faire des canons sur le front. Il ne restait que le socle. Et à la sortie de la Première Guerre mondiale, on a enlevé le socle et on a mis plus loin une statue du baron Haussmann. Mais si vous passez au coin de l'avenue de Messine et du boulevard Haussmann, vous verrez une belle librairie qui vend des stylos de luxe et qui s'appelle « À Shakespeare ». Et donc Shakespeare, quelque part, est toujours là. D'ailleurs, la mairie de Paris serait bien inspirée d'ériger à nouveau une statue de Shakespeare, peut-être à côté d'une statue de Guitry, pourquoi pas.
C'est donc la pièce de théâtre 1916 qui a été adaptée au cinéma en 1936. Et donc, on le dit, la situation qui est décrite, ici un homme qui attend sa maîtresse, elle, pour le coup, est absolument indémodable. Et pourtant, ce que vous dites montre bien qu'il faut aussi toujours ancrer Guitry dans son temps.
Dans son temps. Et en 1916, quand il crée la pièce, alors avec sa première épouse, Charlotte Lysès, avant de la jouer avec la deuxième, Yvonne Printemps, puis avec la troisième, Jacqueline Delubac, qui l'immortalisera au cinéma. En 1916, le propos de la pièce, c'est-à-dire non seulement un homme qui attend sa maîtresse, la maîtresse va chez l'amant, c'est rare, mais surtout, la maîtresse s'endort chez l'amant et se réveille au petit matin dans les bras de son amant. Et là, pour les spectateurs bourgeois, on quitte le théâtre de vaudeville, on entre dans l'obscène, on entre dans le scandale. Mais pour Guitry, on entre dans un certain féminisme, puisque la réponse à cette situation inédite, c'est « elle divorce et je l'épouse ».
Alors vous êtes bien le seul à prononcer ce terme à propos de Guitry. Normalement, on parle de misogynie, vous parlez de féminisme.
Bien sûr, c'est un auteur éminemment féministe, puisque sa misogynie n'est que une tactique de défense dans les pires situations, mais surtout un modèle d'admiration pour la femme. Son ironie caustique est une manière de considérer les femmes comme des êtres qui non seulement ont conquis leur égalité, mais leur supériorité. Il le dit un jour, je suis prêt à leur concéder qu'elles nous sont supérieures pourvu qu'elles...
Oui, mais ça c'est l'alibi classique de la misogynie, de dire qu'elles nous sont supérieures et que c'est pour ça qu'il
faut
les traiter différemment.
Non, mais ça va plus loin parce qu'on retrouve dans d'autres pièces la sagesse de la femme. Par exemple, vous prenez le Nouveau Testament. Vous avez un homme qui disparaît et on croit qu'il est mort, il a laissé un testament, mais que dit cet homme? Il dit que la vie est courte et que la jeunesse est la seule chose qui vaille pour tromper sa femme. Non, pour présenter à sa femme sa fille inconnue. Et donc, on a dans Guitry une sorte de respect de la femme, y compris dans la violence sociale qui est faite aux femmes. C'est-à-dire qu'en permanence, il nous montre la femme défiant sa situation. Alors pour s'en moquer, c'est vrai. Pour montrer que les femmes peuvent être des petits démons, c'est vrai. Mais il les met toujours en situation d'être dans la conquête de quelque chose. La conquête de la liberté avec le faisons un rêve que nous venons d'entendre, qui va très loin. Puisque le soir de la première, il n'y a pas trois actes. Il y en a quatre. On vient d'entendre un extrait du second, du deuxième acte, qui est un long monologue de lui. Le quatrième acte, c'était un long monologue de elle, qui écrit une lettre de rupture à son amant, qui l'a convaincu que finalement trois jours, c'était mieux que toute la vie. Et finalement, elle lui dit non, nous avons passé trois jours ensemble, ce n'est pas mieux que toute la vie. Et si on veut vivre une vraie histoire d'amour, il ne faut pas se contenter d'une escapade. Il faut vivre cet amour jusqu'au bout. Et elle le quitte par une lettre de rupture. Cet acte sera joué une seule fois. Le soir de la première, le lendemain, Guitry le coupe. Il n'a pas marché et on ne le réentendra jamais, si ce n'est de temps à autre quand des universitaires en font un objet d'étude. Et c'est un texte que Guitry a même enlevé des éditions de ses œuvres. L'acte ultime, devenu anonyme, apocryphe, de la femme expliquant pourquoi, pour elle, la modernité, c'est le mariage d'amour. C'est la vie auprès d'un être qu'on aime et qui vous aime. Et ça, c'est quand même Guitry qui l'a composé.
C'est dire combien Guitry était attentif au public et combien son amour du théâtre était porté en grande partie par la grande liberté que lui offre le théâtre de sans cesse recommencer, renouveler, recréer à partir d'un texte existant.
Oui, sans cesse, avec ce personnage incontournable qu'est le public. Il ne cesse de mettre le public comme acteur de ses pièces. Il disait même, là, avec le public, on fait en quelque sorte l'amour. Et il établissait un parallèle entre cet amour fait avec le public parce que la représentation était un acte charnel et quand il disait à la fin des trois actes, il reste encore un acte à accomplir quand on rentre chez soi, et donc évidemment l'acte d'amour avec sa partenaire si possible. Il était vraiment dans ce mélange-là, et c'était très sensuel pour lui que le public, c'était tactile.
Il est donc à la fois l'héritier de son temps, enfin du temps qui le précède, vraiment ancré dans son époque, et en même temps il instaure des petites, on peut parler presque de révolution au théâtre. Vous dites c'est le premier à montrer une femme qui découche et qui se réveille chez son amant, c'est aussi le premier à se mettre en scène lui-même, Sacha Guitry, sur une scène précisément, essayer de flouter cette frontière entre la vie publique et la vie privée.
Oui, d'abord il a vécu des révolutions quand il était jeune. Il a vu s'épanouir complètement ce qu'on a appelé la mise en scène. Avec Antoine, avec Luniepo, il a pris cette vague-là. Il a vu s'établir aussi de nouvelles techniques de scène. L'arrivée de l'électricité par exemple, qui a complètement changé la position des acteurs et des actrices sur la scène, qui a permis beaucoup plus de mobilité et qui a permis de faire ce qu'on vient d'entendre là. Allumer ici et éteindre là, c'est créer une lumière, créer une obscurité, ça a beaucoup beaucoup d'importance. Donc il a été porté par ces révolutions technologiques-là. Et puis il a été porté par des révolutions d'écriture. Le premier Guitry, les premières pièces, elles sont pas très bonnes parce qu'elles sont souvent des pastiches. Il va chercher son inspiration, en effet, chez Jarry, en effet aussi chez Feydeau. Il écrit par exemple avec Nono un sous Feydeau. Il a écrit comme ça des pièces qui ne sont jamais éditées parce qu'elles sont inachevées, qu'il écrit au sortir des pièces de théâtre qu'il a vues et qu'il a admirées, et il pastiche avant de se trouver lui-même. Et donc il s'est nourri de toute cette culture-là. Et il va bousculer, il va inventer toute une série de choses. Oui, se mettre en scène lui-même, ça c'est très important, dans des aspects publics, c'est-à-dire l'acteur fameux dont la vie privée est à la ville et à la scène, mais aussi dans des aspects plus intimes. Quand il écrit « Mon père avait raison », il nous raconte comment, après des années de rupture avec Lucien Guitry, puisqu'il avait volé à Lucien Guitry sa maîtresse, Charlotte Lizès, pour l'épouser.
Sa première femme.
Il retrouve son père. Et il va écrire pour lui un immense chef-d'œuvre, Le Comédien. Pièce, puis film. Et puis il va continuer à écrire pour lui jusqu'à la mort de son père. Et il n'a eu de cesse après de faire vivre le culte de son père. Et cette histoire-là, de déchirure et de retrouvailles entre le père et le fils, se retrouve au cœur de l'œuvre de Guitry, d'une manière presque psychanalytique. N'oublions pas que Lucien Guitry avait enlevé son fils à sa mère. Il l'avait kidnappé pour l'emmener en Russie, retrouver son parrain, le tsar Alexandre, d'où le prénom Sacha, et grandir là-bas, et grandir dans un milieu de théâtre. Donc il y avait chez Guitry des déchirures qu'on retrouvait sur scène.
Il se met en scène lui-même et on ne sait jamais s'il est en train de jouer ou pas. Et d'ailleurs, lui, il le dit, hein, les meilleurs comédiens sont ceux qui savent très bien que nous passons notre vie à jouer, que nous sommes nous-mêmes, que lorsque nous sommes sur scène. Il renverse complètement le paradoxe du comédien. Dans Faisons un rêve, restons-y un peu, parce que c'est une pièce absolument délicieuse, dirait-il. Le film l'est tout autant, on ne se lasse pas de le regarder. Il dure 1h15, on peut vraiment le voir en boucle, en permanence. On a notamment... Eh bien, un peu plus loin, après l'extrait que nous avons entendu, Sacha Guitry, seul en scène évidemment, qui vient d'apprendre au téléphone que celle qui doit le rejoindre, interprétée par Jacqueline de Lubac dans le film, a changé d'avis. Elle a réfléchi, mais il ne faut pas réfléchir, mon petit, dit-il. C'est une erreur absolue quand on est une femme de réfléchir. Et il va donc essayer de mettre en place un des éléments de persuasion pour qu'elle puisse changer d'avis. J'allais vous faire écouter l'extrait, mais Christophe Barbier, je crois que vous aimez tellement cette pièce que vous connaissez ce monologue par cœur.
Comment êtes-vous habillé d'abord? Mais remettez-le ce chapeau. Mais il faut 5 minutes pour venir jusque chez moi. J'ai fait 20 fois l'expérience en allant chez vous. Comment je suis habillé? Mais en veston comme cet après-midi. Vous croyez que je ne sais pas la femme que j'attends? Non, pour une autre. Oui, on tamise les lumières, on achète des fleurs, on met des draps de soie. Mais pour vous. Et il va développer ce stratagème pour l'attirer, lui faire croire qu'elle peut venir. Mais elle va être plus forte que lui. Là aussi, on retrouve le féministe. Ouais. Que fait la femme? Elle lui dit non, parlez-moi, je ne vous réponds pas. Quelle torture pour lui. Quelle torture. Il se met à parler dans le vide. Il se met à parler dans un combiné où personne ne répond. Et à ce moment-là, elle part de chez elle. Et elle va prendre ce taxi dont on vient d'entendre le trajet. Et elle va arriver en 6 minutes. Et elle va même trouver la clé sur la porte parce qu'il avait peur au téléphone de ne pas l'entendre sonner. Il a mis la clé sur la porte. Et elle va lui faire la surprise d'arriver. Et là, le rêve commence.
Oh, mon Dieu. Allô? Allô? Allô, allô? Allô, allô, allô? Allô?
Allô, chérie? Allô, c'est vous? Oui, c'est moi. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Comment rien? Mais vous savez l'heure qu'il est. Oh, pourquoi? Pourquoi? Oh, mais pour... Oh, pourquoi? Mais mon chéri, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Mais il y en a toujours au coin de l'avenue de l'Alma. Oh, écoutez, mon chéri, adoré, moi je... Comment? Non, n'ayez pas peur, non. On n'entend jamais des commandes par téléphone. Mais écoutez, mon chéri, adoré, moi je vous comprends pas. Tantôt, vous m'avez répondu oui, là, d'une façon si spontanée. Votre ton était catégorique. Non, votre ton! Non, ton! Non, je te dis, ton ton, pardon, votre ton! Mais il était catégorique, tantôt. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Ça y est, elle a réfléchi. Mais il ne faut pas réfléchir, mon chéri adoré. Il ne faut jamais réfléchir. Il faut, allô! Non, je crois qu'on avait coupé, pardon. Je dis, il faut toujours se laisser guider par son instinct. Écoutez, mon amour adoré, moi, je ne veux vous dire qu'un mot parce que ce mot-là, il me vient du cœur. Écoutez, alors, mademoiselle, écoutez pas, s'il vous plaît. Allô, chérie, écoutez, mademoiselle, écoutez pas, écoutez pas, mademoiselle, nous tournons tranquille à la fin. Écoutez, chérie, ce mot qui me vient du cœur et qui tout doucement me monte aux lèvres, c'est le mot, alors, elles ont coupé les salopes. Allô? Alors, je vous jure, osez-vous! Oh, pardon, je vous jure. Je vous jure que jamais un être humain n'a été désiré comme je vous désire en ce moment. Ah, voyez-vous, j'ai tant et tant de choses à vous dire. Ah non, pas au téléphone, je pourrais pas.
Le comédien est un homme dont la fonction naturelle est d'être un autre homme pendant 4 heures tous les jours. Jouer la comédie, c'est mentir avec l'intention de tromper. C'est créer l'illusion d'une quantité, d'une infinité de sentiments divers que l'on n'éprouve pas et qu'il convient pourtant de faire partager. Et phénomène curieux entre tous, ce métier ne demande aucune valeur intellectuelle. L'instinct est l'infaillible guide du comédien né. C'est un métier pour lequel il faut être doué. On ne peut pas devenir un bon comédien à force de travail, d'intelligence et de volonté. On peut jouer la comédie sans aucun don, mais on la joue mal. On fait mal semblant. Or, savoir faire semblant, cela ne s'apprend pas. Je crois bien que le plus précieux de tous les dons, le plus rare, c'est la persuasion. S'il y a en scène 5 personnes, une femme jolie, un homme possédant une belle voix, une actrice comique, un virtuose de la parole et un comédien persuasif, je crois bien, oui, que c'est ce dernier qui finira par retenir l'attention du public. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Sacha Guitry cette semaine. Les philosophies de Sacha Guitry et aujourd'hui, le théâtre de la gaieté, évidemment, puisque c'est peut-être l'adjectif qui caractérise le mieux Sacha Guitry, en compagnie de Christophe Barbier, qui est l'auteur d'un dictionnaire amoureux du théâtre. Vous êtes tout aussi amoureux de Sacha Guitry, je crois. Oui. En tout cas, c'est flagrant quand on vous en entend parler. Ce qui est formidable dans à la fois le monologue qu'on a entendu de Guitry lui-même et puis l'extrait du métier de comédien que je viens de lire, c'est qu'on se rend bien compte qu'en fait, pour Guitry, jouer, certes, c'est tromper, c'est mentir avec l'intention de tromper, dit-il, mais c'est pas incompatible avec la sincérité. Il fait complètement exploser l'opposition morale entre le bien et le mal, le mensonge et la vérité.
Oui, il essaye et il parvient à résoudre le paradoxe du comédien de Diderot par ce culte de l'instinct, cette volonté de dire il suffit d'être comédien né pour porter cela sur scène. Alors, à l'époque où Guitry pratique cela, le met en théorie et le met en pratique, le théâtre prend des directions tout à fait opposées, puisqu'on va avoir du côté du cartel, avec Jouvet, Dulin, Pitoëf, une autre piste, on va avoir surtout avec Stanislavski, une influence sur l'Europe d'un jeu du comédien tout autre, qui va chercher beaucoup plus profondément en soi les ressorts insoupçonnés, les ombres, les ténèbres, qui vont permettre de jouer en s'échappant de soi-même. Et Guitry ne s'échappe pas de lui-même, il envahit le théâtre avec lui-même. Et ça, c'est deux versions totalement
différentes. Soit il nous faut ressentir ce que l'on doit jouer, ou au contraire, il faut le faire ressentir au public sans forcément le ressentir soi-même.
Exactement, et donc on appelait quand même à des choses beaucoup plus profondes. Et là, on a des oppositions qui sont intéressantes, qui sont fécondes, qui vont valoir à Guitry un peu de son purgatoire à un moment donné, parce que forcément, ça va apparaître comme une version bourgeoise du théâtre, c'est-à-dire dans la complicité, dans la connivence entre un public et un comédien, un public et un auteur, qui sont du même monde et qui parlent du même monde. L'auteur et le comédien s'autorisant des familiarités sur scène et des audaces sur scène, que le bourgeois dans sa vie, évidemment, ne saurait se permettre. Et donc, ça va quand même enfermer Guitry dans les clichés bourgeois qu'on va lui reprocher. Mais en termes de plaisir de l'acteur et de plaisir du spectateur, et quand je dis plaisir, on pourrait presque dire orgasme, parce qu'encore une fois, avec Guitry, faire l'amour ou jouer, c'est la même chose, eh bien, on atteint quand même une certaine forme de perfection. On en a eu un exemple avec le monologue de Faisons un rêve. On a des tas d'autres exemples dans ces pièces de moments où l'extase, l'épectase du comédien est au rendez-vous. Toa, par exemple, on voit bien...
Alors, qu'est-ce que c'est Toa?
Alors, T-O-A. T-O-A, avec un gros accent circonflexe. C'est un homme qui est en scène de ménage avec sa femme, en crise de jalousie, et c'est spectaculaire. Que se passe-t-il? Elle l'accuse, lui, de mettre sa vie sur scène et de mettre le théâtre dans sa vie. Et c'est vrai, puisque le premier acte se passe chez cet auteur, le deuxième acte se passe en scène le soir même où cet auteur joue une de ses pièces, et c'est le même décor. Parce qu'évidemment, nous dit-elle, il est tellement fou qu'il a fait reconstituer sur scène son salon, sa bibliothèque, et il a même pris pour jouer la bonne, sa bonne. Et donc elle dénonce cette fusion absolue entre sa vie réelle et ce qu'il montre au spectateur, au sens propre, être obscène. Et c'est ce qu'elle lui reproche. Lui, évidemment, s'en délecte, puisque c'est exactement ce qu'il cherche, et ce procès est quelque part son apothéose. Mais, problème, dans cette crise de jalousie, elle a décidé de le tuer. Elle a décidé de venir au théâtre, et de faire un esclandre, voire de l'assassiner. Et bien entendu, il se sent obligé au début de la pièce de prévenir les spectateurs, que peut-être il y aura des balles perdues.
Mesdames, messieurs, en vous priant de bien vouloir m'en excuser, je viens faire ici la chose qui m'est le plus désagréable au monde, c'est-à-dire une annonce. Mais malheureusement, je me trouve dans une situation qui m'oblige à me présenter moi-même devant vous. En effet, d'ordinaire, c'est un régisseur ganté de blanc qu'on charge de ce soin, mais quand vous connaîtrez la raison qui m'amène, je pense que pour une fois, vous voudrez bien admettre cette dérogation aux usages. En effet, au moment même où nous allions commencer la représentation, on est venu m'apporter dans ma loge une lettre qu'une dame venait de déposer chez le concierge du théâtre. Alors, dans cette lettre, cette dame m'informe qu'elle est dans la salle ce soir et qu'elle a tout bonnement l'intention de me tuer au cours de la représentation. Remarquez bien, naturellement, je ne peux pas l'empêcher de tirer un coup de feu dans ma direction. Seulement, je voudrais lui faire observer que je ne suis pas le seul interprète de la pièce que nous allons jouer, et je voudrais bien ne pas exposer mes camarades au danger d'une balle qui pourrait s'égarer. Donc, si cette dame est réellement parmi vous, et si vraiment elle a conçu ce projet, qu'elle veuille bien tirer sur moi maintenant, puisque je suis seul en scène. Il est vrai que cette dame n'est peut-être pas dans la salle. Il est possible, en effet, qu'elle m'ait écrit cette lettre pour m'intimider, pour m'empoisonner ma soirée. D'ailleurs, je veux croire que s'il était parmi vous, mesdames et messieurs, elle aurait déjà manifesté sa présence. Oui, sans doute, ce n'était qu'une plaisanterie. Plaisanterie en vérité d'un goût douteux et, à mon avis, d'une drôlerie discutable. Et dans ces conditions-là, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir commencer la représentation sans courir le risque de la voir interrompre. Vous n'êtes pas dans la salle, madame, n'est-ce pas? Vous êtes dans la salle, madame?
Oui.
Et où êtes-vous?
Ici.
Je ne vois pas, excusez-moi. Électricien! Voulez-vous donner, je vous prie, un circuit dans la salle et un projecteur?
Vous voyez à présent?
Oh oui, madame, très bien.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Comment allez-vous?
Comment je vais? Jusqu'à présent, ça ne va pas trop mal, je vous remercie.
Je vois, oui, la mine est excellente. Ça vous réussit bien de piétiner le cœur des autres.
Madame, je vous en prie, ne nous égarons pas. Est-ce que réellement, vous avez l'intention de tirer sur moi ce soir?
Oui, oui, réellement.
Bien. Alors, madame, voulez-vous le faire et qu'on en finisse, s'il vous plaît?
Non. Je le ferai quand j'en aurai envie, tout à l'heure, je vais.
Alors, l'acteur qui entre en scène avant l'ouverture du rideau, qui s'adresse au public et qui finalement entre en conversation avec son ex-maîtresse, on est à l'inverse de La Rose pourpre du Caire de Woody Allen, où là, c'était une personne parmi les spectateurs qui traversait l'écran pour aller vivre avec les acteurs. Là, c'est exactement l'opposé.
Voilà, c'est l'opposé. Il vient vers nous et il apporte le théâtre chez nous. Vous êtes dans la salle. Imaginez la création de la pièce, vous savez pas de quoi on va vous parler. Vous vous dites, bon, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que c'est le vrai Guitry qui a un problème avec une de ses maîtresses et elle va vraiment me gâcher la soirée? Vous vous dites, c'est peut-être un gag, c'est peut-être dans la pièce. Et à partir de ce moment-là, bah, vous allez vous dédoubler. Vous allez vivre la pièce telle qu'elle est jouée sur scène, puis vivre celle qui est jouée dans la salle. Donc c'est une situation absolument infernale pour les spectateurs qui se retrouvent pris en otage dans le décor et dans la pièce de l'auteur. Sauf que la pièce de l'auteur, c'est aussi la vie de l'auteur. Mmh. Puisqu'on nous dit, oui, ce décor, c'est aussi chez lui. D'ailleurs, à l'acte 1, à l'acte 3, on est transporté chez lui. On n'est plus du tout au théâtre. Donc vous imaginez comment les univers peuvent brinque-baller et comment le public pouvait être déstabilisé. C'était quand même assez unique. La pratique du théâtre dans le théâtre en France, elle est ancienne. L'illusion comique de Corneille, l'impromptu de Versailles de Molière. On avait déjà entraîné les spectateurs dans ce théâtre dans le théâtre. Mais là, c'est vraiment le théâtre dans la salle. Donc on a complètement renversé les choses et le public se retrouve pris en otage.
Sans compter que la personne qui est dans la salle et qui, soi-disant, voudrait le tuer, n'est autre que Lana Marconi, qui est à cette époque, au moment où il joue la pièce, son épouse dans la vie.
Ah mais oui, la vraie vie de Guitry et Guitry en scène, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout Paris se gossait des potins, des scènes de ménage ou des malheurs conjugaux de Guitry quand il était avec Yvonne Printemps et qu'elle courait le guidou avec Pierre Fresnay. Et il voyait sur scène la même chose. Il voyait sur scène, avec des personnages, exactement la même chose. Ne sachant trop d'ailleurs si Guitry faisait exprès de vivre ce qu'il vivait pour en faire des pièces, ou si les pièces étaient une forme de thérapie par rapport à ses malheurs personnels.
Peu importe, parce que finalement, lui, quand il se présente comme homme de théâtre, c'est un homme de théâtre dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire que dans Toa, quand il met en scène, il déplace le décor de son intérieur sur scène, il le recrée, il montre bien que la distinction n'a absolument aucun sens. Et c'est là où, en fait, on est à la fois au summum de la comédie, en même temps, on est très troublé parce qu'il ne dit pas autre chose que ce qu'il vit lui-même.
Exactement. Et c'est pareil pour les inversions de rôle entre l'amant et le cocu. Il dit, dans Faisons un rêve, madame, vous ne pouvez pas, une femme comme vous ne vit pas avec un cocu, même le sien. Et le rôle de l'amant et le cocu, c'est finalement quelque chose de tout à fait interchangeable. Et là encore, on a une modernité de Guitry qui finit par faire valser en éclats tous les préceptes, le bien, le mal et toute la morale bourgeoise telle qu'elle s'échafaude.
Il y a un Guitry beaucoup plus sombre aussi. Là, on parle du Guitry joyeux, gay, qui met en scène des vaudevilles, les histoires d'infidélité, de fidélité, de couple, de séparation et souvent de retrouvailles, même si la morale n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a aussi un Guitry, alors après la Première Guerre mondiale qui écrit des pièces qui sont beaucoup moins connues et plus sombres.
Et qu'on ne joue plus, parce que maintenant le public veut voir du guitry-guitriesque, donc le mari, la femme, l'amant. Et il y a des pièces qui ont été un petit peu oubliées, notamment une qui me tient à cœur qui s'appelle Un sujet de roman, qui est directement inspirée de la vie d'Octave Mirbeau. Octave Mirbeau, qu'on connaît pour Les Affaires sont les affaires ou pour d'autres écrits non théâtraux, Octave Mirbeau a été très important dans la carrière de Guitry, il était son aîné, et quand Guitry a douté de sa capacité à écrire, après de quelques échecs au début de sa carrière, il avait 25 ans, et il lui a dit non, faut persister dans l'écriture, il ne faut pas être seulement comédien comme ton père, persiste, persiste. Donc il vouait une grande vénération, une grande gratitude à Mirbeau. Mirbeau meurt. Et il se trouve que la veuve de Mirbeau, aidée d'un secrétaire qui était peut-être son amant, eh bien se met à dénaturer l'œuvre de Mirbeau. Prend des brouillons inachevés, les termine à la va-vite pour en faire des œuvres commerciales. Guitry en est glacé. Cette captation d'héritage, cette manière dont le Mirbeau post-mortem est piétiné par sa veuve, le terrifie. Et il écrit un sujet de roman où on voit un auteur exigeant.
C'est le titre de la pièce. Hein,
c'est le titre de la pièce, Un sujet de roman. On voit un auteur très exigeant faire une sorte d'AVC, comme on dirait aujourd'hui, et donc devenir un légume sur un fauteuil roulant. Sa femme le cache et avec l'aide du secrétaire fait croire qu'il continue à écrire, récupère des brouillons, les traficote et en fait une œuvre commerciale. Sauf que dans la pièce de Guitry, à un moment donné, le pauvre malade guérit. Il retrouve sa pleine conscience. Il avait tout vu, il pouvait pas s'exprimer, il pouvait pas parler, il pouvait pas protester. Et d'un seul coup, il recouvre ses moyens, il va pouvoir se venger. Et là, on atteint au summum de la ténèbre selon Guitry. Quelle est cette vengeance? Que fait cet homme qui recouvre son esprit, sa femme et qui doit réparer son œuvre? Que fait-il? Eh bien, rien. Il ne fait rien. Il va simplement continuer à vivre avec cette femme. Et cet aveu d'impuissance et en même temps cette vengeance froide, c'est absolument terrible. Et on retrouve exactement ce qu'on apprend dans Huis clos avec Sartre. L'enfer, c'est les autres. Que fait-on? On continue. À la fin de l'enfer, à la fin du Huis clos, la dernière réplique, c'est que fait-on? Continuer. Et Guitry, la leçon de Guitry, c'est que dans ce genre de malédiction, on ne peut que continuer. Et d'ailleurs, ça renvoie à une autre forme d'amertume guitriesque. On en rit, mais elle est quand même amère dans certaines pièces. C'est le piège conjugal. C'est le malheur conjugal dans lequel on est enfermé, dont on ne sortira jamais, parce qu'on n'a pas le courage de tromper sa femme, de la plaquer, de refaire une vie. Et donc, on va un peu s'assoupir. On va un peu vieillir. On va aigrir ensemble. Et ça, Guitry le laisse transparaître parfois à la fin de certaines pièces conjugales, mais on ne le voit pas, parce qu'on a retenu que les rires, des cocufiages et des bons mots, contre ou pour sa femme.
Pourquoi ne veux-tu pas recevoir Ancelin? Enfin, tu peux me répondre quand je te parle.
Je t'avais prié de ne jamais venir ici. Pourquoi le fais-tu? Je ne veux pas qu'on vienne dans mon bureau, même quand j'y suis.
C'est possible. Et moi, je veux savoir pourquoi tu fermes ta porte à Ancelin. Oui, moi, ta femme. J'ai le droit de te demander pourquoi tu agis de la sorte avec un éditeur qui s'est toujours admirablement conduit envers toi.
Parce que je veux qu'on me laisse tranquille dans mon coin. Ancelin venait pour voir où en est mon roman. Eh ben, tu peux lui dire de ma part...
Oui, il est parti.
Eh ben, quand il reviendra... Tu lui diras de ma part qu'il n'y en a pas une ligne d'écrite.
Ouais, il sait très bien que tu en as déjà fait plus de la moitié.
Il se trompe.
Allons-en.
Ouais, ce que j'avais fait, j'ai déchiré.
C'est pas vrai.
Si, j'ai flanqué au feu, tiens, il y a 2 minutes. Regarde.
Oh!
Oui.
Mais tu n'avais pas le droit.
Oh non, non, j'avais pas le droit.
Mais non. C'est un crime que tu commets.
Envers qui, s'il te plaît?
Mais je...
Ah, toi peut-être.
Mais ouais. Oui. Hein? Et envers ta fille, et toi-même, et envers ton éditeur. Car tu lui as promis ce livre par contrat. Et depuis un an, il l'annonce partout.
Alors, il n'avait qu'à ne pas l'annoncer, tant pis pour lui.
Mais enfin, voyons, songe, que depuis 5 ans bientôt, tu n'as rien publié. C'est inconcevable. Tu passes tes journées entières à lire. Ça pouvait te servir à quelque chose, maintenant. Et quand tu prends la plume, qu'est-ce que tu fais? Des préfaces pour des jeunes gens qui ne connaissent même pas et dont les livres tirent à 30 000 grâce à toi. Et tu ne touches pas un centime là-dessus, naturellement. Ah, je te jure, mon ami, que parfois je me demande si tu ne deviens pas fou.
Ouais, je me le demande souvent moi-même.
Enfin, écoute, je t'en prie. Il faut absolument que tu retrouves les brouillons de ton roman.
Oh non.
Et que tu le refasses.
Non, c'est fini.
Mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire, là?
Je vais crever. C'est tout ce que je désire. Ah, mais ça, je le désire de toutes les forces. Hein. Je vais crever dans mes livres, en jetant au feu les dernières bêtises que j'ai écrites. Et à partir de maintenant, jusqu'au moment où je serai crevé... Mais je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux plus qu'on me parle de littérature, de romans, de copies, d'épreuves. Je ne veux plus qu'on me parle de rien. Je veux plus qu'on me parle.
Cette pièce de Guitry, donc un sujet de roman, 1923, qui était jouée au Théâtre Populaire en juin 1944 et diffusée en mai 1956, dont on vient d'entendre l'interprétation, et ici avec Constant Rémy dans le rôle principal et accompagné de Sylvie qui joue son épouse, fait la peau à tous les clichés dont on vétite sans cesse à chaque Guitry. On n'est pas ici dans une forme de gaieté ou de légèreté, au contraire.
C'est pas du Guitry.
Non.
Quand on dit c'est du Guitry, non, c'est pas du Guitry.
Et c'est une pièce tout aussi réussie.
C'est une pièce tout aussi réussie, qui n'est pas vraiment passée à la postérité. Elle a été remontée au Palais Royal il y a une quinzaine d'années avec Michel Aumont, qui était absolument formidable. Ça n'a pas fonctionné. Pas beaucoup. Parce que les gens sont décontenancés, ils sont glacés. Ce qu'on vient d'entendre, il n'y a pas un mot d'esprit, il n'y a que de l'amertume, il n'y a que de la violence.
Et cet homme dit, je veux crever, je veux plus parler.
Mais pas par Guitry, je veux crever au milieu de mes livres. Alors on s'interroge. Est-ce que Guitry est sorti de lui-même pour composer une œuvre inédite, unique, formidable, mais qui est à part dans son œuvre, ou est-ce que c'est le vrai Guitry, finalement, qui nous dit ce qu'il ressentait au fond de lui-même, c'est-à-dire qu'il vaut mieux crever dans ses livres que de tomber sous la coupe d'une femme qui ne veut que des feuillets pour les vendre au kilomètre à un éditeur un peu véreux. Et ça, ça glace le sang.
Quand on sait qu'il travaillait 15 heures par jour et qu'il écrivait en permanence.
Et qu'il plaisantait sur son surmenage, et qu'il plaisantait sur les éditeurs trop gourmands ou sur les impôts ou sur l'argent qui filait. Et Guitry avait une forme de gaieté permanente, comme une sorte de remède à tous les soucis de la vie. Et il a eu des soucis très tôt, parce qu'il a été victime de rhumatisme, il a souffert, il était en traitement tout le temps. Ça n'a pas été une vie de joie tout le temps, la vie de Guitry. Eh bien, Guitry, dans cette pièce, semble nous montrer que la noirceur était sa compagne quotidienne. Et là, moi, ça m'a toujours interrogé. Je me suis dit, est-ce qu'il a fait ça pour faire une sorte de dernière œuvre de son ami Mirbeau, à la mode de Mirbeau, à la manière de Mirbeau, ou est-ce que c'était finalement le vrai Guitry, le Guitry des tréfonds qui parlait en son nom? Il y a une seule autre œuvre qui s'en rapproche, mais c'est pas une pièce de théâtre, c'est son témoignage sur ses 40 jours d'internement à la Libération.
Alors, racontez-nous cette
histoire. Il est arrêté à la Libération, soupçonné de collusion avec l'ennemi parce que il a continué à les fréquenter. Il va faire 40 jours de prison. N'a pas été bousculé ni torturé, mais il a été profondément humilié, blessé. C'était un homme déjà vieillissant quand même à la Libération. Il approchait de la soixantaine. Enfin, il disait pas j'ai 60 ans, il disait j'ai 50-10 ans, ce qui était plus joli. Et il va tirer de cela des aphorismes, des réflexions, et il va tirer 4 ans d'occupation avec un S à occupation. Et il va traiter par l'ironie les reproches qu'on lui fait. Il n'a pas eu trop de mal à se disculper parce qu'il avait rendu des services à beaucoup d'amis, notamment il avait sorti Tristan Bernard et son épouse des griffes des Allemands, qui les avaient arrêtés dans le sud de la France alors qu'ils se mettaient à l'abri en zone libre. Tristan Bernard avait dit alors à sa femme « Nous vivions dans l'angoisse, désormais nous allons vivre dans l'espoir ». Et ils avaient été transportés à Drancy. Et sans l'intervention de Guitry et de quelques autres, ils auraient probablement été déportés. Et donc Guitry a fait cela, il a aidé d'autres personnes. Mais pourquoi il a réussi? Ben parce qu'il fréquentait les Allemands. Parce qu'il avait coupe en main, champagne en main, des soirées avec les Allemands. Alors qu'il était très germanophobe. Après la Première Guerre mondiale, il refusait que ses pièces fussent jouées en Allemagne. Il n'avait pas pu faire la Première Guerre puisqu'il avait été réformé, mais il avait un vrai patriotisme agressif envers l'Allemagne. Pas tout à fait autant que Rostand, mais de manière comparable. Et donc, il ne supportait pas qu'on puisse l'accuser de collusion avec l'ennemi. Il considérait qu'avoir continué à écrire, à faire du théâtre, à faire du cinéma, c'était la meilleure manière pour lui d'être utile à la France éternelle et de pouvoir, par sa position sociale, de temps en temps rendre des services. Et donc, il a été profondément blessé d'être tiré de l'avenue Élysée-Reclus où il vivait en robe de chambre pour être déféré devant un pseudo-tribunal et être incarcéré.
Il disait d'ailleurs, personne autour de moi jamais ne s'est rendu compte à quel point j'aurais pu être malheureux si j'avais voulu. Donnant tort par là à tous ceux qui pensent que la gaieté est un trait de caractère, qu'il est né joyeux et donc il n'avait pas beaucoup d'efforts à faire.
Il n'a pas vraiment connu sa mère, il a été arraché à sa mère très tôt, il avait vis-à-vis d'elle une relation difficile. Il a été écrasé par la figure de son père, il a été brouillé avec son père pour une histoire de femme. Il a eu de nombreuses épouses, ça a toujours été tempétueux. Il a vu beaucoup de ces hommes et des femmes qu'il admirait mourir. Il a traversé des épreuves de santé. Souvent, il partait dans le sud aussi pour se soigner. Il était atteint de rhumatisme assez profond. Il a eu cette humiliation de l'occupation. Il a été quand même à la fois la gloire et le ridicule de la vie parisienne. Il était un people, comme on dit aujourd'hui. Et parfois, évidemment, ce qui sortait sur lui n'était pas formidable. Il a eu une vie conjugale difficile. Et on lui a prêté évidemment une impuissance sexuelle. Il n'a pas eu d'enfant, alors il disait « trois Guitry dans un siècle, ça serait trop ». Mais c'était probablement lié à d'autres soucis. Donc oui, il y avait en Guitry de quoi faire une vie de malheur, ça c'est évident. Et il a transcendé cela par cette espèce de gaieté légère, ironique, parfois cruelle, souvent gratuite, et il mettait dans cette gratuité beaucoup de prix, et il a traversé comme ça l'existence.
C'est ainsi d'ailleurs qu'il parle du théâtre, écoutez-le.
La dernière représentation d'une pièce. J'ai assisté ce soir à la mort d'une chose que j'avais conçue, créée, que j'ai fait vivre pendant 6 mois et qui me l'a rendue largement. C'est fini. À minuit, le rideau s'est fermé pour la dernière fois. C'était une pièce qui faisait rire, elle a fait son devoir jusqu'à la dernière minute, et puis tout à coup, ça a été le silence. C'était fini. On s'est regardé, on a eu tous le même sourire, le même geste, on a pris un temps, d'habitude. Puis on s'est dit au revoir très gentiment. Les mains se sont serrées, les cœurs aussi. Je ne devrais pas être triste en somme, car cette mort n'a pas été accidentelle. Elle était prévue, elle était fatale, elle a été belle, et pourtant ce soir, je suis moins gai que de coutume. Ça passera.
Ça passera, dit Sacha Guitry en 1916. Excusez-nous de la qualité de cette archive, mais pour le coup, elle a 101 ans.
Mais 30 ans après, quand à la fin d'un de ses nombreux livres de citations et d'extraits, il met le mot « fin » à la main, il le raye et il écrit en dessous « fin ». Ah non, cela jamais. Je crois que dans un générique de film, ouais, c'est le même truc.
Parce que là,
ah
c'est... non, cela jamais. Mais c'est bouleversant de l'entendre dire que assister à la dernière d'une pièce, c'est comme assister à la mort d'un proche. On a ici un Guitry qui est beaucoup plus mélancolique et on comprend aussi le geste qui consiste à se tourner vers le théâtre pour transformer la vie. L'avantage du théâtre, d'une pièce de théâtre, c'est qu'à un moment le rideau tombe, c'est fini, et puis si on veut on peut changer même la fin. C'est pas du tout le cas de la vie.
Exactement, et là il est excessif dans cette fusion entre la vie et une pièce de théâtre. La dernière d'une pièce, ce n'est pas la mort d'un proche. D'abord parce qu'une pièce ça se reprend, ça revit, qu'après une pièce il y en a d'autres. Il a écrit plus de 124 pièces. Parmi les pièces qui sont recensées, on ne compte pas celles qu'il a éliminées ou qui n'étaient pas achevées. Donc, bien entendu, on ne peut pas dire cela. On ne peut pas dire cela, même en étant un artiste engagé, on ne peut pas confondre cela. Mais c'était la vie de Guitry d'être dans cette fusion-confusion entre le vrai et le théâtre.
Ce n'est pas moi qui change, mon pauvre chou, c'est la vie. La vie qui ne s'arrête pas un instant. Je suis le mouvement, moi, c'est normal. Tandis qu'on dirait, ma parole, que tu t'ingénies à ne désirer que des choses qui ne se font plus. Tu éprouves un malin plaisir à rompre constamment le rythme de l'existence. Mais je te jure que si l'un de nous avait le droit de faire des reproches à l'autre, c'est plutôt moi qui aurais le droit de te faire remarquer que depuis 2 ans, tu n'as pas changé. Car l'erreur, le crime, la bêtise, c'est de ne pas changer. Tiens, prends une photo de toi, une vieille photo, n'importe laquelle, il y a 10 ans, et regarde-toi. Tu portes les mêmes vestons, les mêmes cravates, la même coiffure.
Avec moins de cheveux.
Eh bien, on dirait que tu trouves. Eh bien, on dirait que tu trouves que ce n'est pas encore assez. Depuis 2 ans que je te connais, je ne t'ai pas vu à la page une seule fois. Je te jure que tu es le train dédoublé. Tu parles toujours des mêmes bouquins, des mêmes patelins, des mêmes types. Et tu connais beaucoup plus de gens parmi les morts que parmi les vivants. On fait des films parlants, on a la TSF, et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Des vers. Voyons, ce n'est pas sérieux, des vers. À notre époque, c'est de l'entêtement, c'est de l'obstination, ça. On te parle de Megève et tu réponds « Venise ». Mets ta pendule à l'heure pour l'amour du bon Dieu. Allez, allez, courage, mets-toi du cosmétique et des pantalons courts jusqu'à 5h du soir. Apprends à patiner, ne bois plus de vin rouge. Fous-nous la paix avec le 18e siècle. Et quand tu veux faire l'amour, ne me demande pas à chaque fois de me déshabiller.
Eh bien, crénom de Dieu, il m'arrivera ce qui m'arrivera, mais je ne mettrai pas de cosmétique. Je ne porterai pas de pantalons courts. Personne ne m'empêchera de parler de Fragonard et je ferai l'amour comme il me plaira. Il y a 20 ans, mon petit, quand on se passionnait, c'était pour des causes un peu plus élevées. Il n'y avait pas de petite chapelle et les hommes de valeur étaient solitaires. N'en parlons plus. Et puisque je ne suis pas à la page, je ferme le livre. Et je renonce à saisir le charme d'une époque où tout n'est que falsification, copie, imitation, trucage, où l'on met la science au service du toc. Tout ce qui semblait beau jadis, on le cache à présent. Ou bien on le supprime. Les cheveux, les sourcils, la poitrine, elle reste. La lumière même est à son déclin. Il y a 100 ans, on la montrait. Il y a 20 ans, on la voilait. Aujourd'hui, on la dissimule. On la met sous corniche ou dans des aquariums. Et tout est faux, tout est truqué. On reconstitue des rubis, on agglomère des saphirs, on cultive des perles. La soie est artificielle et les parfums sont synthétiques. Le papier imite le bois imite le fer est nickelé, le nickel imite l'argent, l'argent imite l'or imite le platine. Le mica imite le verre imite le cristal imite le diamant. Le cuir est imité par le pégamoïde, l'écaille est imitée par le celluloïde. Le lézard imite le serpent, le poulain imite l'astrakhan et le chat devient du lapin quand le lapin se fait hermine.
Quel Guitry vous faites, Christian Barbier? Vous l'avez déjà joué sur scène?
Oui, j'ai eu la chance de jouer cela sur scène avec d'autres pièces. Les pièces courtes de Guitry sont un peu oubliées. Un homme d'hier, une femme d'aujourd'hui, ce qu'on vient de lire, une paire de gifles, les dessins de la Providence. Les dessins de la Providence, encore une fois, le théâtre et la vie. Un homme part à Paris retrouver sa maîtresse. Sa femme le sait, elle le laisse partir. Parce que la veille au théâtre, elle est tombée amoureuse du comédien principal et il va venir la retrouver à l'entracte. Et ils vont faire l'amour pendant l'entracte qui dure longtemps parce qu'il y a un jeu de société, une loterie. Et donc, ils sont là en train de faire l'amour pendant l'entracte de la pièce, le comédien et la femme, Le mari revient, il a loupé son train. Il les surprend. « Monsieur, rejoignez-moi tout de suite. Et toi, rhabille-toi. » Il revient dans le salon, il attend l'amant pour lui expliquer sa façon de penser. L'amant arrive et il voit surgir un cardinal. « Comment ? Vous, monseigneur ? Hélas, oui, mon fils. » Et le cardinal lui explique que sa femme voulait absolument commettre l'adultère, qu'il a essayé de l'en dissuader, mais que ne pouvant l'en dissuader, il s'est dévoué. Quitte à tromper son mari, autant qu'elle le fasse avec un homme d'église. Mais surtout, le mari ne doit rien dire. Maintenant que le péché est consommé et pardonné, la vie doit reprendre son cours. Le mari ne sait pas que c'est un comédien qui jouait un rôle de cardinal dans la pièce qui était à son entracte. Mais c'est absolument extraordinaire.
Absolument extraordinaire, c'est aussi le cas de la pièce dont on a improvisé une petite lecture, Christophe Barbier, un homme d'hier et une femme d'aujourd'hui. Le titre d'ailleurs est génial parce que tout est dans le titre. Et alors là, pour le coup, les dialogues qu'il prête à l'une et à l'autre sont d'une précision, d'une exactitude même qui est assez troublante et qui dit tout de la nature de leur relation finalement. Cet homme qui appartient à une ancienne époque, elle qui est moderne, et pour cette raison, ils ne pourront pas rester ensemble.
Oui, ils sont déchirés par le temps.
C'est pas vraiment une comédie.
Ils ne vivent pas dans la même époque. Mais encore une fois, un exemple de pièce étonnamment féministe. Qui est moderne, l'homme ou la femme? On pourrait s'attendre à une femme traditionnelle, confite dans la morale, et un homme audacieux qui vit avec son temps. Non, c'est l'inverse. Le voilà lui, complètement ringard, habitué aux traditions anciennes, et la voilà elle, audacieuse. Quand elle arrive dans cette pièce, elle descend de sa voiture, un petit bolide, elle est en tenue de pilote automobile, elle revient d'une séance de golf où elle est allée jouer, et elle repart pour d'autres aventures.
De Catherine Hepburn française.
Exactement. Ouais. C'est elle, la modernité, et c'est lui, le ringard. Et ce qui va les séparer, c'est cela. Et finalement, c'est naturel. Celle qui veut vivre libre et s'envoler et voler de ses propres ailes, c'est la femme, c'est pas l'homme. Encore une fois, plus Guitry se moque des femmes, plus il faut chercher derrière cela la glorification de la femme moderne, de la femme audacieuse.
Il y a une nostalgie quand même chez Guitry et dans ce personnage, et il faut bien entendre que par nostalgie, Guitry ne désigne pas un défaut. Au contraire, il y a une noblesse de la nostalgie.
Il y a une noblesse de la nostalgie parce qu'il ne s'est jamais fait l'apôtre ou le poète de la décadence française. Il déplore la dégradation de la langue française depuis le XVIIIe siècle. Il déplore le fait qu'on ne rende pas assez honneur aux gloires de la France. Par exemple, Pasteur, dont il a fait une pièce, ou bien Cambronne, puisqu'il a écrit une pièce sur le mot de Cambronne. Il déplore tout cela et en même temps, il faut vivre avec son temps. Jamais Guitry ne nous dit « soyons réactionnaires ». Il est dans la nostalgie, jamais dans la réaction.
D'ailleurs, on entendait dans le passage que vous avez lu, de nouveau, la référence à l'électricité, la lumière qui est si importante à la fois sur scène et dans la vie.
Oui, il était quand même très attentif au progrès technique. C'est pour ça qu'après s'être trompé sur le cinéma, il a embrassé une carrière de cinéaste. C'est pour ça qu'il a, sur la fin de sa vie, tenté d'influencer les nouvelles écoles de cinéma, les nouvelles écoles de théâtre, sans trop y parvenir. Il était quand même très attentif à tout cela. Il se piquait quand même de modernité. Avec quand même simplement l'idée d'être dans les aventures au cas où elles marchent. Et ça, il l'avait retiré de celle qui était son témoin de mariage quand il a épousé Yvonne Printemps, Sarah Bernhardt. Parce que Sarah Bernhardt aussi a fait un peu de cinéma et Sarah Bernhardt aussi a toujours été attentive aux innovations techniques. Le chemin de fer pour faire une tournée aux États-Unis, l'électricité en scène et le cinématographe. Il avait d'ailleurs assisté à une des dernières représentations de Sarah Bernhardt. Tout le monde savait qu'elle allait mourir dans quelques mois. On venait l'applaudir au théâtre et elle avait à ce moment-là sa jambe de bois. Et quand on a frappé les trois coups, Guitry a dit « la voilà ».
On va encore écouter un dernier extrait de Guitry pour nous accompagner vers la fin de cette émission. Guitry qui, quand il parle de son rapport au théâtre, parle des grands hommes qui l'ont marqué. Et évidemment, en premier, vient Molière.
Molière est tellement le théâtre en personne qu'il est peut-être le seul homme illustre qu'il vaudrait mieux ne pas tenter de faire revivre sur la scène. Molière est la plus claire expression du génie de notre race. Car sublime ou burlesque, il ne cesse jamais d'être le bon sens même. Molière est parmi les grands hommes celui dans la France pourrait le moins aisément se passer. Molière est nécessaire, il est une preuve permanente. Et l'on a constamment l'occasion de clouer le bec à des gens qui voient faux en leur disant « Eh bien, et Molière ?» Quand on parle d'un homme que l'on admire et que l'on aime sans réserve, quand on s'exprime sur son compte en termes éperdus, quand on n'a plus de mots qui semblent assez forts ni qui soient assez tendres, Quand les gestes s'en mêlent et qu'on lève les yeux au ciel, il se trouve toujours quelqu'un de pondéré pour briser votre élan et pour insinuer « ce n'est tout de même pas le bon Dieu ». Cette observation vient mettre au point les choses et vous laisse interdit, car de toute évidence, la personne en question n'est pas le bon Dieu. Eh bien, quand nous parlons, nous autres, de Molière, superlativement, si quelqu'un s'avisait de nous dire « ce n'est tout de même pas le bon Dieu », nous répondrions « si ».
Ce qui est de génial chez Guitry, Christophe Barbier, c'est qu'il ne se cache jamais d'admirer les hommes qui l'ont influencé. Bon, là, en plus, c'est Molière, donc il n'y a aucune raison de s'en cacher. Mais il aime leur rendre hommage et il le fait à la radio, dès qu'il le peut, dès qu'il prend la parole.
Oui, il considère que l'exercice d'admiration est d'abord une forme de patriotisme, hein, c'est toujours présent chez Guitry, et ensuite une manière de transmettre le témoin et de s'inscrire dans le sillage de grands hommes qui vont nous inspirer, de grands hommes ou de grands moments historiques. Il a écrit, je disais, le mot de Cambronne, qui reconstitue comment Cambronne a dit le fameux mot de cinq lettres. C'est en alexandrin, c'est délicieux. Ça a été créé pour une rencontre au sommet entre le gouvernement français, le président de la République française, et le roi britannique. Ça a été joué pour la première fois, je crois même, dans l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Donc vous voyez, il se prêtait à l'exercice diplomatique par cet hommage au passé, par cet hommage à Waterloo, donc un moment un peu conflictuel entre les deux pays. Donc toujours mettre l'esprit au servir de ce culte national. Quand il a tourné son petit film « Ceux de chez nous », c'était pour rendre hommage à des gloires, Monet, Rodin, etc. Il n'a eu de cesse de glorifier le passé parce qu'il pensait qu'il fallait s'appuyer sur le passé pour que le présent puisse se porter vers l'avenir. Il s'est vraiment inscrit dans le sillage. Il n'était pas réactionnaire, encore une fois, malgré sa nostalgie, mais il n'était surtout pas révolutionnaire. Il pensait qu'il ne servait à rien de renverser la table et qu'il fallait, par des audaces, par des petites innovations, changer la réalité, l'orienter, mais ne surtout rien renverser de ce qui était bon dans le temps passé.
Il est difficile, quand on fait autant de théâtre, de ne pas admirer Molière de toute façon. Il a le courage quand même d'en dire le plus grand bien, c'est-à-dire qu'il n'est jamais effrayé par les évidences.
Oui, et de le respecter au point de n'avoir jamais écrit quelque chose de majeur sur Molière, de ne jamais être allé fouiller du côté de Molière. Quand Guitry commence à travailler, on a déjà les premiers textes, les premières études qui mélangent un peu Molière et Corneille. On est déjà dans une découverte d'un nouveau Molière. C'est l'époque où on va redécouvrir le vrai Don Juan. Pas le Don Juan retravaillé par Thomas Corneille pour le rendre compatible avec la censure et qui a servi de version officielle pendant des siècles, mais on est en train de redécouvrir, grâce au cartel, grâce à Jouvet, un autre Molière. Et donc, Guitry va mettre Molière en position de dieu vivant du théâtre français, la langue de Molière, et en même temps, il s'en approche assez peu. Il n'a pas écrit de parodie, n'a pas écrit de pièce biographique, il ne s'est pas trop mêlé de cela. Alors, bien entendu, à travers le cinéma, il va pouvoir faire revivre l'histoire française et y mettre des grandes figures. Mais il n'a pas écrit, il aurait pu écrire et tourner le Molière de Mnouchkine qu'elle a fait après. Il s'est gardé de s'approcher de cela. Et là, il y a soit une révérence, soit une sorte de peur à aller vers des polémiques ou à découvrir des choses. Je trouve ça assez mystérieux que Guitry ne se soit pas attaqué au monument Molière, alors qu'il n'a pas hésité à le faire avec Mozart, par exemple, mais qui n'est pas français. Et il a écrit une pièce qui raconte la vie de Mozart.
Vous jouez du Guitry, Christophe Barbier, parfois?
Oui. Oui, bien sûr. J'ai joué Faisons un rêve. J'ai joué beaucoup les petites pièces. Par exemple, On passe dans 8 jours. On passe dans 8 jours est une pièce de théâtre dans le théâtre. C'est un auteur qui a décidé de changer une actrice qui convient pas du tout. Et en fait, il veut la changer parce qu'il veut mettre sa petite maîtresse, une jeune comédienne, à la place. C'est pas du tout une réflexion artistique. Donc, il convoque l'actrice pour la congédier et elle se révolte. Elle se révolte, elle en vient à éructer, à le brutaliser. Et là, soudain, il voit ce qu'il a toujours rêvé pour son acte 3. Donc il la réintègre à sa distribution en lui disant de rester dans cet état d'esprit, en scène, répétons l'acte 3. Donc vous voyez, le théâtre, la vie, le théâtre, on a cela dans presque toutes les petites pièces de Guitry comme dans les grandes.
On va se quitter avec une chanson d'Albert Préjean qu'on trouve à la fin d'un des films de Guitry. Vous me direz si vous reconnaissez.
Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie entre nous est si brève. Amusez-vous, comme on est fou, la vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci, on n'est pas ici-bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout, prenez la vie par le bon bout. Jésus, amusez-vous, foutez-vous tout, la vie entre nous blesse son rêve. Amusez-vous, comme on est fou, la vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire des soucis. aussi. On n'est pas ici-bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve.
Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie passera comme un rêve. Ça, c'est vraiment le chant de ceux qui sont sur scène au théâtre. Une vie que vous connaissez bien, Christophe Barbier, je ne l'ai pas dit au début, je le dis à la fin. Vous avez une troupe de théâtre?
Oui, oui, le théâtre de l'Archicube. Théâtre de l'Archicube, la troupe des anciens élèves de Normale Sup. Et on s'amuse beaucoup à jouer.
Et vous jouez chaque année?
Bien sûr, chaque année on joue et on a joué du Guitry régulièrement. Là, on est dans Beaumarchais, mais Guitry adorait Beaumarchais. On a joué une pièce d'ailleurs, je pense, en écoutant la musique. C'est important la musique pour Guitry. Il a beaucoup travaillé avec Albert Wilmette, il a créé des revues, il a travaillé sur quasiment des opérettes. Une de ses premières pièces d'ailleurs avait été acceptée à condition qu'il la transforme en opérette. C'était la clé. Et donc la musique a toujours été présente, le dessin aussi, puisqu'il a dessiné des caricatures qui se vendent très cher aujourd'hui. C'était un portraitiste assez inspiré. Mais par exemple, Plaisir d'amour ne dure qu'un instant, Chagrin d'amour dure toute la vie. Il en a fait une pièce. Il raconte l'histoire qui a permis la création de cette petite chanson, une histoire fictive qui se passe à la fin du 18e. Mais il a fait théâtre de tout. Il a fait théâtre de sa vie, il a fait théâtre de l'histoire, il a fait théâtre de la musique, il a fait théâtre de tout.
La vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Et zoom.
Amusons-nous. Merci en tout cas Christophe Barbier d'être venu nous parler de Sacha Guitry aujourd'hui. Donc rendez-vous eh bien, pour votre prochaine représentation de l'Archicube. Ça aura lieu quand?
Dans le week-end entre la fin novembre et le début décembre. Ça sera le mariage de Figaro de Beaumarchais.
Eh bien c'est noté. Merci à vous. Et en fait la parole, évidemment la parole de fin revient à Sacha Guitry. Écoutez encore quelques secondes de lui qui parle des femmes, évidemment les femmes et les idées au théâtre.
Je crois qu'il est en vérité difficile à un auteur dramatique d'avoir sur les femmes une opinion justement équitable. Pour peu qu'il ait écrit une vingtaine de pièces sur l'amour, et c'est mon cas, il aura joué toute sa vie un double rôle. Tour à tour accusateur et défenseur, puisqu'une scène est un dialogue, il lui arrive parfois de faire triompher des idées qui ne sont pas les siennes, mais dont il devient l'esclave si ses pièces réussissent. Le cas m'est arrivé avec Jean de La Fontaine. Au troisième acte de cette pièce, pour bien marquer le caractère amoral du fabuliste, je lui faisais dire ceci. La fidélité n'est pas une qualité humaine. Une qualité dont on ne fait bénéficier qu'un seul être à la fois ne saurait être une qualité. L'indulgence, voilà la grande qualité. N'être pas l'ennemi des plaisirs de l'autre. Un homme n'a pas le droit de compromettre les minutes de bonheur qu'une femme peut avoir et qu'elle ne lui vole pas, car on ne vole personne, et les baisers qu'on donne à l'un, on ne les aurait pas donnés à l'autre. Eh bien, je ne partage pas du tout cette opinion. Or, j'ai créé ce rôle et tous les soirs, pendant 6 mois, je me suis appliqué à faire applaudir cette théorie que je désapprouvais.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo, présenté cette semaine par Anastasia Colosimo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Anastasia.
Bonjour Adèle.
Tous les jours, vous nous parlez de philosophie en lien avec l'actualité. Alors, quelle actualité a retenu votre attention aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la 7e édition des Rencontres philosophiques de Langres, qui, comme son nom l'indique, se déroule toute cette semaine à Langres, ville natale de Denis Diderot. Ces rencontres philosophiques existent depuis 2011 et ont été créées à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de ce qui s'appelle le Plan national de formation. Le plan national de formation se décline en autant de matières que compte l'école et l'université et propose une formation continue aux professeurs sous forme de conférences et de séminaires dans différentes villes de France. Les conférences et séminaires dispensés par de grands professeurs et spécialistes étaient d'abord strictement réservés aux professeurs et inspecteurs de philosophie. Mais depuis 2 ans, elles sont ouvertes au public. D'autant que la ville de Langres a décidé d'entourer ses activités scientifiques par ce que l'administration appelle communément un volet culturel, c'est-à-dire une multitude d'événements, spectacles, visites, petits déjeuners, déjeuners et goûters philo ouverts aux familles, de 7 à 77 ans. Si vous ne pouvez pas vous y rendre, pas de panique. Les conférences sont filmées et seront rapidement disponibles sur le site Eduscol. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le site contient également des archives de toutes les éditions précédentes des rencontres.
Et alors, quel thème a été retenu pour cette 7e édition des Rencontres de Langres ?
Pour leur 7e édition donc, et après avoir exploré des questions comme la vérité, la liberté, la matière et l'esprit, l'histoire, la religion et le politique, les Rencontres philosophiques de Langres de 2017 sont consacrées à la nature. Vaste sujet, me direz-vous. C'est à peu près aussi ce que dit l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, puisque la nature y est définie comme un terme dont on fait différents usages. En soi, déjà, la nature, du latin natura, renvoie très généralement à ce qui existe depuis la naissance. La nature évoquerait donc ce qui n'a pas été modifié depuis la naissance, et naturel qualifierait ce qui n'a pas été transformé par un artifice quelconque. Définition très large. Historiquement ensuite, si chez les Grecs la nature, la physis, recouvre la totalité de ce qui est, ou la totalité de ce qui se produit, le christianisme impose l'idée d'une nature créée par Dieu et subordonnée à lui, où l'homme doit se conduire comme maître et possesseur, selon Descartes. À partir du XVIIIe siècle, le rationalisme fait de la nature à la fois un objet scientifique, comme en témoigne la montée en puissance de la physique, de la biologie ou encore des arts mécaniques, mais aussi un objet politique avec la formalisation de dualismes qui sont encore les nôtres. Inné acquis, nature-culture, naturel-artificiel. Toutes ces conceptions sont centrales dans les débats les plus contemporains, à la fois sur la place de l'homme dans la nature, de sa responsabilité vis-à-vis d'elle, mais aussi du degré jusqu'auquel l'homme peut pousser l'artifice sans mettre en péril l'idée même d'humanité. C'est donc pour essayer de clarifier toutes ces questions que les Rencontres de Langres ont décidé de faire appel à la fois à des philosophes, des juristes, des scientifiques, menés d'une main de maître et sous le regard bienveillant du grand Paul Mathias, inspecteur général de l'éducation nationale. Le programme est constitué de 10 conférences et 4 séminaires. Du côté des conférences d'abord. Du point de vue de la philosophie et du politique, vous pourrez découvrir ce que la philosophie a à dire de plus que la science sur la nature avec Dominique Horwiller. Vous insurgez contre les dérives du positivisme contemporain avec Paul Ducrot. Vous questionnez sur la manière dont il faudrait dépasser individualisme naturaliste et culturalisme collectiviste, rien que ça, avec Daniel Handler. Vous pourrez aussi travailler à restaurer l'unité de la vie via l'idéalisme allemand, quel programme, avec Patrick Cerutti, et vous interroger enfin sur ce que le concept de nature charrie de normes politiques et de modèles sociaux avec Thierry Hoquet. Je fais ici une mention spéciale à la conférence de Catherine Frichot sur le débat entre jardin à la française et jardin à l'anglaise qui devrait aboutir sur une réflexion sur le jardin contemporain. Du point de vue du droit ensuite, vous pourrez vous pencher sur le débat irrésolu entre juste naturaliste et positiviste avec Thierry Gontier, comprendre les grands défis posés au droit environnemental avec Eleanor Bertrand et ceux posés au droit civil avec Sarah Van Uxem. Enfin, du point de vue de la science, Marc Lachaiseret interviendra sur l'impact des nouvelles découvertes physiques sur notre vision du monde, en évoquant à la fois le Big Bang et la physique quantique. 4 séminaires sont proposés ensuite. Là encore se mêleront philosophie, droit et science pour éclairer de manière vivante que le concept de nature ne peut être compris que par un véritable effort d'interdisciplinarité. Bref, vous l'aurez compris, ces rencontres promettent d'être passionnantes, courez-y, et si vous ne pouvez pas, connectez-vous.
Merci beaucoup Anastasia Colosimo. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo et puis les informations concernant ces rencontres de Langres seront également en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Marianne Chassor, Caroline Bactou, Claire Perriman-Holt, Géraldine Mosna-Savoie que vous retrouverez la semaine prochaine, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Juliette Delperroux et Emmanuel Morse-Duncan qui étaient la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur Guitry. Demain, Antoine Debecq viendra vous conter Versailles. Si Versailles m'était conté, c'est le titre du film de Sacha Guitry qui fera l'objet de notre discussion demain. D'ici là, rendez-vous sur nos comptes Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires. Et puis rendez-vous en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie pour réécouter l'émission, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. À demain donc, 10h sur France Culture, mais d'ici là, restez à l'écoute.